C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui s'intéresse à l'impact des mots, des discours et du langage sur notre société. Aujourd'hui, nous parlons des accords de paix en cours de négociation pour mettre fin à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo et surtout la manière dont nous commentons ces initiatives de paix, Babel.
Oui, Pauli, pour mettre fin au conflit qui déchire l'est de notre pays, les tentatives de médiation se multiplient. Elles viennent de l'ECC, la CINCO, l'Union africaine, la SADC, le Qatar et plus récemment des États-Unis. Tous ces États et ces organisations essaient de rapprocher les positions, d'arracher un accord entre les acteurs du conflit, mais loin des salons diplomatiques feutrés, ces pourparlers alimentent nos conversations de tous les jours.
Exactement, Babel, hein, chacun a son mot à dire, on commente, on critique, on soutient ou on rejette. Et ce langage, ces mots que nous choisissons pour parler de ces accords de paix peuvent impacter sur le processus. Ils peuvent en effet contribuer à construire un climat d'espoir ou au contraire attiser les divisions et la polarisation.
Alors, comment parler de ces accords de paix sans tomber dans la surenchère, le rumeur, la diabolisation ou les prises de position binaires sans nuance? Comment nos paroles à nous, citoyens, influent sur notre perception de ces initiatives de paix en cours? Pour en discuter, nous recevons deux invités.
Le premier est Frédéric Amani, il est chercheur associé en sciences politiques à l'université de Lubumbashi, spécialiste des questions de sécurité, de défense et de maintien de la paix à l'Institut Thalès d'Afrique, basé à Dakar. Bonjour Frédéric Amani et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Poli et bonjour à tous.
Avec nous également Adrien Amagene, journaliste. Dans le cadre de son métier, il suit ses pourparlers de paix et scrute quotidiennement les réactions populaires, notamment sur les réseaux sociaux. Bonjour Adrien Amagene et bienvenue parmi nous.
Bonjour Babel, bonjour à Frédéric Amani et aux auditeurs de Radio Okapi.
Merci d'être là. Hein. Avant de commencer cette discussion, écoutons un premier extrait de notre sketch radiophonique. Il se déroule dans un milieu universitaire avec des étudiants. Ils débattent ensemble d'un nouvel accord signé entre deux équipes rivales au sein du campus. Tendez bien l'oreille, écoutez.
Écartez-vous s'il vous plaît. J'ai un document hyper important que je dois afficher à Laval. Ça vient directement du bureau du directeur.
Papa,
s'il
oui.
vous plaît.
J'espère que c'est vraiment important oui. que tu viennes nous embêter pendant qu'on consulte les nouvelles horaires des
cours. C'est important. C'est un accord d'entente qui vient d'être signé fraîchement par nos deux équipes de football qui est en conflit depuis plusieurs mois. Et tu sais, c'est à propos du terrain où nous faisons les entraînements.
Pardon, Bouillé, parle-nous de ces conneries, pardon. Tout cela n'est que foutaise. Et parle-nous de ça.
Oui, c'est du foutaise. Comment tu peux dire ça?
Non, mais arrête de faire semblant, Bouillé. Kitoko a totalement raison. C'est n'importe quoi.
Quelle est une raison, toi?
Non, attends. Cela n'a rien d'un accord.
Sérieux, les gars?
Oui.
S'il vous plaît, vous n'êtes donc pas content que nos deux équipes arrivent enfin à une entente?
Quelle entente, mon cher?
Nos deux équipes ont signé un accord mettant fin au conflit au campus. C'est pas génial, ça?
Non, mais c'est juste une distraction. Distraction totale. Une distraction, moi qui vous jinga, donc. Ce document est une coquille vide, on s'en fout.
Mais les gars, vous êtes sérieux?
Non, c'est une distraction. Allez, ça.
S'il vous plaît, vous crachez sur un document aussi important pour l'attente au campus.
Oh non, merde! Je crois d'ailleurs que ce document de merde mérite d'être déchiré.
Voilà!
Ouais!
Tu as raison.
Mérite d'être déchiré et utilisé comme chiffon pour effacer le tableau.
Papa, tu as tout dit.
Osez l'afficher.
Rien afficher.
Bon, mais caca, quoi?
Rien afficher.
Oh, Héra.
Je vais afficher ça.
Non, afficher le
document. Tu ne vas pas
afficher le
document. C'est quoi ça?
Thank you. Vous n'êtes donc pas content que nos deux équipes arrivent enfin à une entente, demande l'un des étudiants dans cet extrait. Une phrase qui illustre bien l'incompréhension que peuvent ressentir certains citoyens face à des commentaires sceptiques vis-à-vis d'annonces d'accords de paix. Alors, Frédéric Amani, pourquoi ces annonces d'accords de paix sont parfois accueillies avec méfiance, même quand ces initiatives sont soutenues par des États ou de puissantes institutions?
Vous savez que tout est fonction d'intérêt, dans la mesure où ceux qui ne voient pas leur intérêt être promis dans ces négociations, ils ont tendance à torpiller ou à parler de mal de ces accords, et ça ce n'est pas un bon signe patriotique, si on peut le dire ainsi. Un autre élément, je crois que la conception que d'autres acteurs ont des efforts ou des initiatives diplomatiques pour la restauration de la paix dépendra aussi de la communication que les parties prenantes à ces initiatives donnent pour permettre à ce que la population ou les détracteurs, si on peut le dire ainsi, puissent avoir une idée, n'est-ce pas, des efforts qui sont en train d'être déployés pour la paix et la sécurité.
Mais justement, Frédéric Amani, comment expliquer que parfois l'annonce imminente de la signature d'accords de paix, au lieu de porter l'espoir, alimente parfois le rejet ou des réactions polarisées? Est-ce un problème de communication? Vous l'avez déjà mentionné. Est-ce une forme de lassitude ou est-ce plutôt le souvenir d'échecs diplomatiques précédents ce type de négociation?
Je crois que tous les trois éléments peuvent être mis en exergue, mais je crois que c'est, comme je l'ai dit aussi, c'est par rapport aux intérêts, excusez-moi de le dire ainsi. Il y a certains qui profitent de la situation chaotique à l'Est, mais aussi, comme vous l'avez dit, par rapport aux échecs des accords passés. Il y a eu des accords signés entre la RDC et d'autres pays, entre la RDC et d'autres acteurs, mais on a toujours tendance à retourner à la case de départ ou à torpiller les efforts qui sont en train d'être déployés ou à signer des accords qui ne seront pas appliqués. Mais au-delà de ça, moi je pense que le devoir humanitaire devrait interpeller les uns et les autres, surtout les Congolais, à prendre à bras le corps les initiatives qui sont mises en place et de l'accueillir, n'est-ce pas, de manière avec enthousiasme pour que cela conduisent à des résultats escomptés. Vous savez, les efforts sont déployés, mais cela aussi dépendra de la manière, comme vous l'avez dit, de la manière dont les Congolais accueillent ces initiatives, de la manière dont les Congolais parlent de ces efforts. Mais lorsque les Congolais ou une frange des Congolais parlent mal de ces efforts, eh bien, ça risque de décourager les États ou les acteurs qui se déploient pour que la paix revienne.
Merci Frédéric. Je me tourne vers vous à présent, Adrien Maguené. Vous suivez ces pourparlers de paix au quotidien dans le cadre de votre travail. Alors, quand vous entendez ce genre de discours fataliste ou découragé, comment analysez-vous la responsabilité des médias dans la manière dont les accords sont expliqués au public?
Merci beaucoup. Je pense que pour ce qui est des médias, il y a une grande responsabilité, mais la plupart du temps, les journalistes eux-mêmes déjà ne sommes pas suffisamment rigoureux dans les traitements des informations. Vous trouverez un journaliste qui organise sur un mois 10 numéros d'émission sur un sujet comme celui des négociations en cours entre les différents acteurs du conflit dans l'Est et de la RDC. Mais en réalité, quand vous lui demandez, par exemple, est-ce qu'il a lu les documents officiels qui ont été diffusés par les différents médiateurs, il ne les a pas lus. Il se contente des titres. Et de ces titres-là, lui, il reformule ses propres titres lorsque ce sont des articles qu'il doit publier ou lorsqu'il doit faire des annonces à la radio ou à la télévision. À partir de ce moment-là, le journaliste, il est défaillant. Et un journaliste qui n'a pas une compréhension suffisante des enjeux ne peut pas informer sur ces enjeux-là. Donc pour moi, ça c'est une première chose. La deuxième, c'est que aujourd'hui, il y a cette question de déontologie et des responsabilités du journaliste qui voudrait que le journaliste insiste sur le respect, sur les débats avec dans le respect. La plupart du temps, on reçoit, on donne la parole à des acteurs qui, pour une raison partisane, vont avoir une communication en surenchère, le mot que vous employiez tout à l'heure. Mais au lieu de les aider à revenir sur une communication avec respect, on les laisse. Et ce qu'on fait la plupart du temps aujourd'hui, c'est que aujourd'hui on reçoit un acteur d'un camp, il vient, il insulte les camps d'en face, plutôt que de l'en dissuader, on se dit qu'on va accorder le droit de réponse à l'autre camp, et on est dans une spirale de diatribe. Et ça ne résout rien finalement, et c'est de la responsabilité du journaliste de s'interdire d'être le canal par lequel ces genres de communications passent.
Merci. Dites-nous alors, ces multiples initiatives de paix et l'annonce d'accords suscitent bien souvent des réactions contrastées dans la classe politique, venant d'en parler d'ailleurs. Comment ça se traduit alors dans les échanges entre les citoyens lambda, notamment sur les réseaux sociaux?
Vous savez que chaque mot que prononce un leader à un retentissement dans la communauté. On a vu la Cinco et l'ECC être reçus par le président de la République, et peu après, ils s'étaient rendus à Goma où ils avaient rencontré le camp AFC M23, et dès lors, les gens de l'Union Sacrée avaient énormément critiqué l'initiative des évêques. Et le fait pour des responsables, des leaders de l'Union Sacrée, de s'en être pris presque de manière violente aux évêques, s'est répercuté dans les discours des gens qui soutiennent l'initiative des évêques ou qui soutiennent le camp de l'Union Sacrée. Ça veut dire que les leaders eux-mêmes, ils ont provoqué cette polarisation entre eux, et cette polarisation s'est rallongée au sein de la société. Donc je pense que c'est surtout une question de responsabilité. On peut avoir le point de vue des évêques, et puis on a d'un autre côté le point de vue de l'Union Sacrée, et puis on a le point de vue d'un autre groupe d'acteurs congolais, sans que ce ne soit nécessairement des points de vue contradictoires. Ils peuvent être complémentaires. Donc nous devons approcher les choses de cette manière-là, et pour l'instant, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait.
Merci encore une fois, Adrien Maguené. Je vous propose de poursuivre avec la suite de notre sketch radiophonique, toujours avec nos amis les étudiants. Cette fois-ci, la discussion monte d'un cran et les esprits s'échauffent. Écoutons.
Votre façon de parler ne fait qu'entretenir la séparation entre nos deux équipes. Au lieu de nous aider à régler nos embrouilles pour développer l'université ensemble.
En tout cas, derrière ces langages de désaccord envers cet accord montre bien que Kitoko et Amani sont parmi ceux qui ne souhaitent pas que le conflit soit résorbé.
Écoute, nous ne sommes pas prêts à être des dindons de la farce. Tout porte à croire que chaque ligne de ces soi-disant accords a été bien maquillée pour nous distraire.
Ouais.
Mboui, n'esquive bien. Ton akatal est l'air corps.
Oui, et d'ailleurs, toi, Mboui, toi là, tu as trahi notre équipe en acceptant de signer cet accord ridicule. Tu nous as trahis, papa.
Sale traître.
C'est vraiment ça votre conclusion?
Oui.
Bon, après tout le boulot qu'on a fait pour l'intérêt de tous.
Ah, oui. C'est toi, quel intérêt de tous? Tu te tais. Tu dois retirer la signature à ces documents. Nous ne sommes pas d'accord avec toi.
Mais les gars,
tous d'accord, Nayoté.
Les gars, tous ensemble, crions en unisson.
Retirez cet accord. Retirez la signature.
Retirez ça.
Tu as trahi notre équipe en acceptant de signer cet accord ridicule, déclare l'un des étudiants d'un ton menaçant. Alors, Frédéric Amani, dites-nous, les opinions au sujet de ces accords de paix sont souvent tranchées, sans nuance. Les uns sont pour, les autres s'y opposent de manière catégorique. De quelle manière est-ce que cette polarisation du débat peut devenir dangereuse, d'après vous?
Alors, cela peut devenir dangereuse dans la mesure où un camp peut utiliser ce discours vis-à-vis d'un autre camp pour montrer la redondance, la dangerosité de la signature de ces accords. Tout comme un autre camp peut aussi utiliser à ses fins ces discours pour montrer que ceux qui refusent la signature de tel ou tel accord ou ceux qui n'appuient pas les initiatives sont les ennemis de la République, et cela peut conduire même à une fissure, à mettre à mal les efforts pour la consolidation de l'unité nationale ou, n'est-ce pas, de la cohésion nationale qui, depuis un temps, est mise à mal par les discours incendiaires ou des invectives. Moi, je pense qu'il revient et à l'État et aux différentes structures, que ce soit de la société civile et aux médias et aux formateurs, d'éveiller la conscience des Congolais à ne pas tomber dans ce jeu-là des discours incendiaires. Et je crois que de ce point de vue-là, on peut éviter, n'est-ce pas, une autre crise où on peut éviter, n'est-ce pas, l'incendie.
Oui, merci pour cette intervention. Monsieur Adrien Maguené, dites-nous alors dans quelle mesure certains acteurs politiques instrumentalisent le langage autour des accords de paix pour créer des alliances ou pour polariser les opinions. Et puis, est-ce que cette instrumentalisation peut-elle davantage diviser les citoyens autour d'initiatives censées pourtant ramener la paix dans le pays?
Merci beaucoup. Avant que ce ne soit de l'instrumentalisation, c'est tout d'abord naturel que l'on ne soit pas d'accord sur l'interprétation de la pertinence ou non des accords en cours. D'une part, il y a des acteurs qui ne sont pas engagés dans les négociations et donc qui ont besoin d'informations, et quand les informations ne leur sont pas quand ils n'ont pas les bonnes informations, je prends le cas de l'opposition aujourd'hui, l'opposition la plupart du temps commente sur base soit des communiqués finaux qui ont été publiés, soit encore de manière analogique par rapport aux accords que le pays a eu à signer par le passé et qui éventuellement s'étaient avérés non infructueux. Et à partir de ce moment-là, l'opposition se dit « Ok, tel qu'on a lu, ça ne convient pas. Tel qu'on a lu, ça ne garantit pas les intérêts du pays. » Maintenant, moi, aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de leaders qui se considèrent comme des opposants républicains. Moi, je voudrais que ces opposants républicains utilisent les voies républicaines. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont, par les truchements de leurs députés, de leurs sénateurs qui siègent dans les institutions, le droit d'adresser des questions orales, par exemple, à des membres du gouvernement attitrés pour répondre à ces genres de questions, ce serait plus responsable que d'être dans les médias. Alors qu'on voit ces opposants plus actifs dans les médias plutôt que dans les institutions. Ça, c'est de l'instrumentalisation. Pourquoi ? Parce que nous aimerions avoir des débats là où ils doivent se tenir. Nous aimerions avoir des débats entre eux, là, loin des masses populaires. Mais on sait que sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde et il y a plus d'incompréhension. Et je pense que les acteurs politiques congolais, dans leurs intérêts, en tout cas individualistes, ils trouvent plus à gagner à alimenter le débat dans les réseaux sociaux que d'échanger entre eux, d'avoir le débat des responsables, parce qu'on les appelle leaders, parce qu'ils devraient plutôt engager des débats entre eux, à l'abri, j'insiste, de la population qui peut être fragile face à des questions qui sont d'ordre technique. Voyez. Donc, pour moi, c'est ça la partie d'instrumentalisation et la manière pour les uns et les autres d'éviter cela, ce serait, par exemple, d'avoir des informations qui sont claires. Aujourd'hui, on n'en a pas suffisamment. On se rappelle aussi qu'il y a eu une époque où, dans ce pays, on a signé des accords qui ont résulté sur la création du M23. On se rappelle, à l'époque, on exigeait des informations de la part des autorités congolaises. Et ces informations, semblait-il, ne sont pas venues. Après, on a la M23. On a eu l'adhésion de la RDC à l'EAC. Il y a des gens qui avaient dénoncé l'opacité derrière cette adhésion. On les avait diabolisés. Mais plus tard, les gens, même au sein de l'Union sacrée, ont commencé à exiger le retrait de la RDC de l'EAC. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, que des gens exigent plus de transparence, on ne devrait pas diaboliser cela. On devrait leur donner suffisamment d'informations pour qu'ils aient le choix entre, pour qu'ils aient une capacité d'appréciation un peu plus développée.
Plus de transparence pour éclairer les débats, dites-vous, hein, Adrien Maguené. Merci pour ces explications. Retrouvons une dernière fois nos amis, les étudiants, dans ce troisième extrait de notre feuilleton radiophonique. Les étudiants découvrent qu'ils peuvent finalement exprimer des critiques légitimes sur des initiatives de paix tout en restant constructives dans leur manière d'en parler. Écoutons.
Calmez-vous, les gars.
Non.
Hein? Pourquoi vous êtes agité comme ça? Les gars, s'il vous plaît, réfléchissons un peu.
Réfléchir?
Oui.
Réfléchir sur quoi, Bouille?
Attends.
Non, on va réfléchir
sur
quoi?
S'il vous plaît. Vous ne réalisez donc pas que c'est ce langage de critiquer l'accord qui bloque les rapprochements de nos deux équipes? Au moment où on commençait déjà à voir une lueur d'espoir.
Nous ne sommes pas deep, garçon.
Nous ne sommes pas deep.
Nous ne croyons pas à ces fameux documents qui cherchent à donner des privilèges à d'autres. Ça est une grosse mascarade qu'on veut nous faire gober.
C'est ça.
Vraiment, vous pouvez me dire quelle clause de l'accord que vous avez lue et qui vous semble suspecte?
Bon, personnellement, j'avoue que je n'ai pas tout lu. Mais des rumeurs qui circulent ici au campus affirment, c'est ça, non? Affirment que ces documents ne donnent que de l'avantage à une partie.
En plus, nous savons tous que d'autres accords qui ont été signés avant n'avaient rien donné comme solution. Comment voulez-vous qu'on croie à ces nouvel accord?
Les gars, s'il vous plaît, vous ne pensez pas que nous devrions plutôt faire confiance aux représentants de nos équipes qui ont bossé dur sur cet accord? Vous savez, dans ce genre de deal, chacun doit lâcher un peu de terrain pour enfin avoir un compromis.
Bon, le gars, je crois que Mbouy a parfaitement raison. Ce qui compte, c'est de rester optimiste et de reconnaître les efforts faits pour avancer. Au lieu de tout compliquer avec des discours, des désaccords.
Exactement. Si on adopte un langage positif, ça peut inspirer les autres. Ça apaise les tensions et redonne de l'espoir pour un avenir meilleur.
Vous ne réalisez donc pas que c'est ce langage de critiquer l'accord ou qui bloque le rapprochement de nos deux équipes au moment où on commençait à avoir une lueur d'espoir, demande l'un des étudiants. Frédéric Amani, dites-nous, lorsque les accords de paix deviennent des sujets de désaccord au sein de la population, comment peut-on véhiculer son opinion sans pour autant aggraver la crise ou polariser des opinions?
Vous savez, on a toujours dit, du choc d'idées jaillit la lumière. Je crois que et il est vrai que la signature des accords, c'est une bonne chose et qu'il faut que ceux qui signent ou ceux qui s'engagent dans cette activité-là aient aussi le temps, n'est-ce pas, d'expliquer les bien fondés d'avoir signé tel et non tel autre accord pour éveiller la conscience de la population afin que la population ne puisse pas s'intéresser aux rumeurs ou aux fausses informations et que la population ait suffisamment d'informations par rapport à tel accord et tel autre accord. Je pense qu'il faut de la transparence, il faut de la communication, mais il faut aussi rétablir cette crise de confiance qui, depuis un temps, semble poser problème entre les gouvernants et les gouvernés. Je pense que de ce point de vue-là, on peut arriver à signer des accords qui ne poseront pas suffisamment de problèmes dans la société lorsqu'il y a cette communication fluide et cette confiance mutuelle entre les gouvernants et les gouvernés.
Merci Frédéric Amani pour ces explications. Je reviens vers vous, Adrien Maguené. Si on considère le fait que nos préjugés sur ces accords de paix se manifestent justement à travers notre langage, notre manière d'en parler, et que cela est le reflet de notre faible connaissance des enjeux de ces accords, comment est-ce que les journalistes, les professionnels des médias comme vous, peuvent remédier à cette situation?
En tant que journaliste, on doit faire un maximum d'efforts pour être factuel, c'est-à-dire parler des choses concrètes. Si dans l'accord il y a des chiffres, il faut nommer les chiffres. Si je prends un exemple, admettons qu'aujourd'hui l'accord qui n'est pas encore signé entre le Rwanda et la RDC, pour lequel une déclaration de principe seulement a déjà enflammé l'opinion. Supposons que demain, on lit dans cet accord que la RDC et le Rwanda devront exploiter ensemble le gaz du lac Kivu. Et après, des Congolais auront des cœurs surchauffés en disant « Mais on a, par exemple, la plus grande partie du lac se trouve chez nous. » Mais le journaliste, au lieu de dire « Le Rwanda et la RDC vont exploiter ensemble, mais à concurrence de 70-30, par exemple, parce que c'est un chiffre qui peut aider un citoyen ordinaire à se dire « Ah, ok, on va exploiter ensemble, mais on va partager à concurrence de qui a plus, une plus grande partie du lac chez lui. » Vous voyez, c'est des faits. Et ce sont des faits qui peuvent aider à apaiser. Mais la plupart du temps, on reste dans le sensationnel. La RDC a été contrainte à partager ses richesses avec le Rwanda. Quand je lis ça, en tant que citoyen, je vais me dire, ah, encore une fois, on a été floué. Mais il y a des faits. Il y a des faits, et sur ces faits-là, la plupart du temps, on ne communique pas en tant que journaliste. Ça, c'est une grande défaillance que moi, je nous impute en tant que journaliste, et que nous devons éviter dans le contexte aussi délétère que celui des négociations en cours. L'autre chose que nous pouvons faire en tant que journaliste, c'est de communiquer sur des choses qui fonctionnent. Par exemple, entre la RDC et le Rwanda et le Burundi d'ailleurs, il y a un accord qui est très fonctionnel. On a Sinélac. On exploite la centrale de Ruzizi 1, on exploite Ruzizi 2 ensemble et on partage l'électricité qui est produite à ce niveau-là pour le bien des populations des trois pays. On peut parler de ça. On peut montrer à la population congolaise, parce que tout le monde ne le sait pas, on peut montrer à la population congolaise qu'il y a la possibilité de répliquer un tel modèle dans le cadre de la coopération qu'on envisage avec le Rwanda pour les négociations en cours. C'est cela, être factuel et être positif. Ça n'empêche qu'il y ait aussi des faits éventuellement qui sont pénalisants pour les intérêts de la RDC et qu'on les évoque, mais là où il y a des précédents positifs, il faut les mettre sur la table, il faut les partager à l'opinion pour qu'elle ait finalement cette nuance entre ok, ce qui fonctionne entre la RDC et ses voisins et ce qui ne fonctionne pas entre la RDC et ses voisins, et qu'on ne reste pas dans un pessimisme permanent.
Communiquer de manière factuelle sur ces accords, de manière positive également, dites-vous, Adrien Maguené. Voilà, c'est donc sur cette note que prend fin cette émission. Nous venons de voir que la paix ne se décrète pas seulement dans les salons feutrés où se tiennent les négociations diplomatiques. Elle se construit également dans nos mots, nos discussions, nos critiques et même nos silences, Babel.
Oui, Pauli, les accords de paix sont certes signés par les dirigeants, mais leur succès dépend aussi de la manière dont nous, aux citoyens, les comprenons, les commentons. Chaque parole compte. Chaque opinion peut soit construire un pont, soit creuser un fossé.
La paix ne se résume pas uniquement à la signature d'un accord. C'est une culture, un langage, une posture. Parce que chaque accord de paix mérite qu'on lui laisse une chance. Et cette chance commence parfois par la manière dont nous en parlons.
Merci encore une fois à Frédéric Amani et Adrien Maguené qui ont été nos invités. Nos remerciements vont également à Billy Landry Betou qui était à la régie technique. Et merci à vous, fidèles auditeurs, pour votre attention et votre fidélité. Vous écoutiez C'est le temps qui fait la panique, une émission proposée par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Cet épisode est à retrouver en rediffusion samedi 11h05, 19h05, heure de Kinshasa, ou à tout moment sur www.radiokapi.net et www.abarirdc.net.
En attendant, n'hésitez pas à réagir à cette émission sur nos pages Facebook et X. Dites-nous, que pensez-vous des derniers accords de paix signés à Washington et surtout comment vous en parlez autour de vous. Merci encore une fois et à très bientôt pour un nouveau numéro de C'est le ton qui fait la panique. Au revoir.
Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.